Le collectif C'est Nous, regroupement d'associations hip-hop et d'artivistes, en lien avec des associations locales et nationales qui luttent contre les discriminations, organise une série d'émissions et d'échanges du 29 mars au 1er avril à 13h, en finir avec les contrôles au faciès, des solutions en droit, sur News FM et sur marumedroit.org.
Bonjour et bienvenue sur News FM. Cette semaine, nous vous proposons 4 rendez-vous pour parler des discriminations et surtout du problème du contrôle au faciès. 4 émissions d'une heure jusqu'à jeudi avec des invités en studio et aussi par téléphone. L'émission d'aujourd'hui est consacrée aux outils de lutte mis en place sur notre région grenobloise, mais aussi ailleurs pour apporter une réponse aux discriminations et au contrôle au faciès qui stigmatisent toujours ceux qui les subissent. Il est temps de faire connaissance avec nos invités d'aujourd'hui. Omer Mas Capitolin, en ligne avec nous depuis Paris. Bonjour Omer.
Bonjour à vous tous, à toutes et tous.
Quelques mots pour vous présenter?
Oui, je suis de l'association Maison Communautaire pour un Développement Solidaire, activiste engagé depuis plus de 15 ans sur ces questions de contrôle au faciès, d'amélioration des rapports police-jeunes. Association demanderesse dans l'action de groupe qui a été lancée au mois de janvier.
Nous avons également avec nous ici dans les studios Pierre Gaillard de la Ligue des droits de l'homme Rhône-Alpes. La Ligue est évidemment mobilisée depuis toujours face aux discriminations. Bonjour Pierre.
Bonjour à tous et à toutes.
Nous avons aussi Judas Bardi. Bonjour.
Bonjour.
Vous travaillez à la régie de quartier de la Villeneuve. Quel est son rôle?
Alors, la régie de quartier, c'est une association qui a été créée par des habitants pour des habitants. Et son rôle, eh bien, c'est d'abord de créer de l'emploi sur le quartier, de répondre aux besoins des habitants. On a tout un volet citoyen autour du développement durable, de la citoyenneté. Et moi, j'ai un volet assez important sur la lutte contre les discriminations aussi.
D'accord. Et on a aussi Liamine Saoudi. Bonjour.
Bonjour.
Vous représentez une association, La Petite Poussée.
L'association La Petite Poussée, donc, qui existe depuis 2006, qui fait la promotion de la citoyenneté, qui accompagne donc, il y a différents groupes de citoyens, justement, pour faire entendre leur parole et faire en sorte que, bah, que la citoyenneté, que la parole des gens prennent aussi une place dans les médias. Et qui dit prendre de la place dans les médias, dit prendre de la place tout court, je pense. Et donc, c'est la raison pour laquelle on s'attelle à construire différents supports avec différents partenaires pour faire entendre la parole des citoyens et notamment sur le sujet des discriminations en l'occurrence aujourd'hui.
Et enfin, nous avons avec nous Christelle Bernard. Bonjour.
Oui, bonjour.
Christelle, vous êtes également très engagée dans cette mobilisation grenobloise. Pour rappel, la lutte contre les discriminations, les contrôles aux faciès et les violences policières vous rassemblent tous ici. Et il y a eu un premier procès gagné contre l'État pour faute lourde en 2015. Depuis, les actions se multiplient. Une première journée a été organisée en octobre 2017 par le Conseil citoyen indépendant de Grenoble, instance de démocratie participative locale, avec une exposition et des tables rondes de réflexion. Christelle, vous pouvez rapidement nous rappeler de cette journée?
Alors, les conseils citoyens indépendants de la ville de Grenoble, c'est une instance de démocratie participative locale.
Oui.
Qui est mise en place par l'État. En fait, c'est une obligation légale pour les villes qui sont au-dessus de 80 000 habitants et qui permet en fait aux habitants de soulever des questions qui les concernent et de faire le lien avec les politiques publiques. Et c'est vraiment un outil de démocratie locale. Et on a décidé de travailler sur les contrôles discriminants qui touchent une bonne partie de la population et une partie spécifique de la population. Et on a monté du coup ça a duré presque 3 ans quand même, deux colloques, on va dire, avec une exposition qui s'appelle Égalité trahie, en finir avec le contrôle au faciès, et deux colloques de réflexion. Voilà.
Et on va retourner à Omer à Paris. Omer, vous êtes là avec nous?
Toujours.
Omer, pouvez-vous nous parler de vos actions sur Paris, mais aussi à travers vos déplacements partout en France?
Mes actions sur Paris, donc la MCDS a pour objectif d'accompagner les victimes de contrôle. La démarche consiste à les informer sur leurs droits et surtout d'utiliser le droit, même si c'est entre guillemets, c'est pas très sexy parce que c'est long, ça dure des années, mais c'est le choix stratégique qu'on a fait pour être complémentaire de lutte et d'action menées par d'autres collectifs, d'autres associations, toujours sur cette même question des contrôles d'identité discriminatoires, contrôles d'identité aux faciès. Et donc, bon, ce sera un peu long de vous parler de toutes les actions qu'on mène, mais on a aussi tout un travail de plaidoyer national et international. Pour faire court, nous avons porté aussi avec d'autres le premier procès sur le contrôle aux faciès dont vous avez cité tout à l'heure, avec la très belle décision de la Cour de cassation qui date de 2016 et qui effectivement condamne l'État français pour faute lourde, donc engage la responsabilité de l'État sur cette thématique, sur cette problématique. Ensuite, on a mené aussi quelques actions au niveau, par exemple, du Conseil national des droits de l'homme, où la France a été déjà condamnée à plusieurs reprises aussi, également, et qui met en évidence la question du profilage ethnique, le fait qu'on contrôle une grosse partie de la population à cause de leur apparence supposée. On a accompagné 18 jeunes mineurs du 12e arrondissement qui subissaient des contrôles permanents, accompagnés de propos racistes, de violences physiques, de ce qui a été caractérisé par la juge qui a mené l'enquête d'atteinte sexuelle également, puisque ces jeunes étaient régulièrement palpés sur les parties génitales. Et donc, sur cette affaire, en première instance, les policiers avaient été condamnés à la peine de prison avec sursis. Donc, ils ont fait appel. Pour l'instant, l'appel a cassé la première décision. Donc, on fait appel.
Et Omer, ces actions sont-ils assez efficaces?
Vous savez, c'est avec des gouttes d'eau qu'on remplit un verre. On est en face d'une machine qui est extrêmement puissante, importante, qui est l'État. Donc, c'est toujours très compliqué de mettre l'État devant ses responsabilités. On est en face d'une administration qui est l'administration policière, souvent représentée par les syndicats, et qui se sont, enfermés dans un déni total de ces problématiques-là. Et donc pour nous, en tout cas, l'outil action judiciaire nous paraît un outil intéressant et important, obliger l'État à mettre en place les réformes nécessaires pour vraiment changer les choses. Deux exemples concrets, il s'agit de réformer l'article 78.2 du Code de procédure pénale qui encadre les contrôles d'identité pour que ce soit beaucoup plus clair, que ce soit pas un chèque en gris pour les policiers. Et en même temps, mettre en place, par exemple, le récépissé de contrôle qui doit permettre d'avoir une traçabilité de ces contrôles, mais permettre aussi à des citoyens, parce qu'il faut savoir qu'il y a des citoyens qui perdent leur boulot, parce que si vous faites arrêter à l'heure, à la pause déjeuner, et que vous subissez un contrôle et que vous faites le malheur de demander la raison du contrôle alors que la loi vous y autorise,
oui,
vous risquez de finir au poste, y passer 3-4 heures, peut-être même toute la journée, et qu'on vous dise tout simplement dégager sans avoir aucun document qui vous permet d'attester auprès de votre employeur que vous n'étiez pas en train de boire des coups avec des amis, mais que vous avez subi un contrôle qui a peut-être nécessité une vérification et que vous étiez pendant tout ce temps-là au poste. Et on a des cas concrets, oui, de gens qui ont perdu leur boulot à cause de ça.
D'accord.
Donc voilà pour nous.
D'accord. Je vais passer la parole à nos invités qui sont sur table. Pierre Gaillard.
Oui, je pense que je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. En ce qui concerne effectivement le délit de faciès, il faut s'apercevoir que ça rejoint l'idée de se dire qu'il va y avoir clanification de la société, c'est-à-dire qu'on va trier les gens rien qu'au simple regard, on va se dire celui-ci, on risque effectivement d'avoir des soucis avec lui, donc on va l'arrêter. Ça entraîne l'humiliation de la personne qui est arrêtée, quelle que soit la raison pour laquelle il est arrêté, et ça fait une clanification de notre société. C'est-à-dire que d'un seul coup, que qu'on soit, je sais pas moi, noir, blanc, juif, musulman, gay, lesbienne ou je ne sais trop quoi, jeune et vieux aussi, en bas on va dire, ben, on va se classifier. C'est totalement en dehors des bases de la République française. Liberté, égalité, fraternité. Égalité, on devrait dire égalité, fraternité, donc liberté. Mais c'est par l'égalité, quelle que soit la nature des gens, qu'on doit effectivement pouvoir se dire qu'on peut arriver à une certaine liberté. Fraternité et liberté. Voilà, c'est pour ça que la Ligue des droits de l'homme est tout à fait engagée avec toutes les associations, qui sont nombreuses, et qui luttent dans cette direction.
Judah Bardi, oui. Vous en dites quoi par rapport à ça?
Oui. Eh bien, en fait, il décrit une situation qui est vécue par les jeunes, rapportée par les parents, et qui malheureusement aujourd'hui est décrite comme quelque chose de banal par les jeunes. Et il y a d'autant plus besoin aujourd'hui de se mobiliser sur ces questions et de faire avancer le droit et faire changer les mentalités. Aujourd'hui, les jeunes, ils subissent pas mal de contrôles et très souvent, en fait, à l'intérieur du quartier, à l'extérieur du quartier. Et c'est quelque chose, en fait, qui nous est remonté à travers le travail qu'on fait.
Et Liamine Saoudi, et vous en dites quoi par rapport à ça aussi?
Déjà, je remercie Omer pour son discours. Et du coup, dans l'idée, enfin, il a bien souligné le fait que c'est avec plusieurs gouttes qu'on finit par remplir un verre, parce que c'est une thématique sur laquelle on a l'impression qu'il y a une espèce d'accoutumance, une banalisation et presque une normalisation. Voilà, pour avoir mené différents entretiens avec des groupes de jeunes, on a fait donc des entretiens sociologiques avec une douzaine de jeunes issus des quartiers dits populaires, on s'aperçoit qu'il y a une forme de banalisation, de normalisation, que le combat est très rapidement perdu d'avance. Donc du coup, ne serait-ce que l'espoir de pouvoir aboutir à quelque chose est mince. Mm-hmm. Et je crois que c'est très important, du coup, de tout ce que vient de souligner Omer, dans le sens où il y a une lutte qui existe et qui avance, l'air de rien. Aller condamner l'État, on est quand même sur quelque chose d'assez parlant et significatif. Et donc je pense qu'il faut effectivement, déjà, on en parlait ce matin encore, mais déjà avoir une petite culture de la discrimination, se rendre compte qu'aujourd'hui, la discrimination, déjà ne serait-ce que pouvoir avoir une petite culture des discriminations pour mieux pouvoir les identifier et donc mieux les qualifier et donc pouvoir ne serait-ce que les comptabiliser et de se dire, là on se rend bien compte que des situations de discrimination sont quasi quotidienne et parfois avec de l'intersectionnalité, c'est que du coup, on prend une femme, mettons une femme qui soit d'origine africaine et qui en plus de ça serait lesbienne, là pour le coup, qui habite dans un quartier dit populaire, pas facile et pas normal.
Ouais, ça c'est sûr.
Absolument, pas normal, c'est révoltant, mais pour le coup, on se rend bien compte qu'il y a un vrai problème et qu'il faut aujourd'hui, plus qu'aujourd'hui, comme hier et demain, mais en tout cas, là, on a la chance de pouvoir s'en saisir collectivement, et je crois que c'est une chance et qu'il faut savoir la saisir.
Et Christelle, vous avez quelque chose à rajouter?
En fait, ça serait peut-être du coup aussi de remercier Omer pour l'ensemble des actions qui sont menées aussi à Paris et qui peuvent être essaimées sur le territoire national, en fait, parce que c'est des victoires qui sont extrêmement symboliques, en fait. Avoir une décision de justice contre l'État suivie en fait d'une action de groupe qui réunit quand même 6 associations qui sont à la fois des ONG et des associations locales qui mettent en fait en demeure l'État de changer de politique publique vis-à-vis de ces professionnels de la sécurité. C'est un peu une réappropriation en fait de nos politiques de sécurité, clairement, et une prise en compte des problématiques des citoyens et de ces questions discriminatoires qui sont en fait inacceptables en fait dans un état de droit. Et l'objectif d'un état démocratique, c'est quand même développer les outils qui nous permettent à tous citoyens de s'émanciper et de comme disait Pierre Gaillard, d'être aussi libre, d'être en sécurité, de pouvoir être libre de ses mouvements et de ses actes et de pas être subir en fait des humiliations, des palpations, des fois en fait qui peuvent arriver à des morts, on le sait. Donc il y a des politiques publiques de sécurité qui sont à modifier. L'action de groupe est du coup très importante pour ça. Les premières victoires aussi ont été gagnées dans le 18e, grâce à tout ce travail collectif qui a été mené, est vraiment important. Et ce que disait Léamine, et je rebondis, c'est qu'on a l'impression que quand on parle des contrôles d'identité, que c'est quelque chose normal, une banalité sans nom, que c'est aussi une montagne et qu'on peut absolument rien y faire. Mais en fait, il y a des acteurs qui se mobilisent. Il y a des associations de terrain, comme la Régie de quartier, le réseau Égalité, l'IAMINE, etc., qui sont mobilisés sur ces questions. Voilà.
J'ai une question pour vous tous. Omer, vous êtes toujours là avec nous ?
Toujours.
D'accord. Est-ce que la lutte doit passer davantage par la sanction, c'est-à-dire le recours à la justice, que par la sensibilisation des publics ou la médiation avec la police ?
Non, je pense qu'il faut, qu'à un moment donné que nous soyons en capacité d'agglomérer toutes les luttes menées par les uns et les autres. Je parle des collectifs de familles, les associations, tous celles et ceux qui se mobilisent sur cette question-là. Je crois qu'on est en face d'une problématique systémique, donc qui demande des réponses systémiques. Je pense qu'on ne doit pas s'enfermer dans notre culture franco-française face à un problème aussi important, d'essayer de trouver une solution idéale, mais bien d'être en capacité d'agglomérer, comme je disais au début, tous ces réponses, alternatives, solutions que construisent les unes et les autres pour essayer de créer en fait cette vague qui va ébranler de façon sérieuse, ce système, et qui emmène aussi nos représentants élus à pas simplement sortir quelques propositions à veille de campagne électorale, parce qu'ils savent que ça parle à une frange de l'électorat. Non, je reste convaincu que ce sont l'ensemble des luttes qui pourront avoir un impact sérieux sur ce problème-là.
Pierre Gaillard, est-ce que vous pensez que la lutte doit passer davantage par des sanctions ?
En fait, il y a plusieurs réponses qu'on peut donner à vos questions. Mm-hmm. À savoir qu'il est vrai que tout délit mérite justice, on va dire. Mais cette justice est-elle égalitaire dans le monde du faciès, dans le monde de ce que nous représentons nous-mêmes ? On parlait de quartier populaire. Moi, ce terme, je n'en veux plus de ce terme. Parce qu'il n'y a rien de plus impopulaire qu'un quartier populaire. Il n'y a que le front populaire qui était populaire. Mais avant, on parlait de cités d'ouvriers, de jardins ouvriers. Maintenant, forcément, dans ces cités, il n'y a que des chômeurs. On ne va pas dire des cités de chômeurs. Donc, on va se poser la question de l'attitude aussi, notamment des forces de police, qui en principe s'appelait des agents de la paix. Maintenant, on dit des forces de police. Ça fait une nuance. Et le profil des policiers, enfin de certains policiers, quand ils sont dans un quartier dit populaire, par rapport à un quartier où les gens semblent respectables, il y a moins d'agressivité dans leur comportement. Pourquoi ? Il y a peut-être une histoire de peur aussi, mais de sentiment de peur, parce que ce n'est pas de la peur qu'ils doivent avoir, c'est un sentiment qu'ils doivent avoir. C'est-à-dire qu'il y a une grande différence, c'est comme quand on se promène dans le tram et qu'on voit un noir ou un arabe, on va fermer son vêtement pour dire « il va me piquer mon porte-monnaie ». Ça, c'est un sentiment. Alors que le premier qui va vous aider, bien souvent, si vous tombez par terre, c'est peut-être l'étranger que vous dites étranger, et qui n'est pas étranger, c'est un homme comme tout le monde. Ou une femme, bien sûr.
Judas Bardi, comme vous êtes la régie de la quartier de Villeneuve, on peut dire ça comme ça, c'est un quartier populaire. Donc là, je vais rebondir un petit peu. C'est Pierre Gaillard vient de dire qu'on a un sentiment de peur, en fait. Est-ce que réellement ça existe, en fait ? Qu'en dites-vous ?
Alors, juste avant de répondre à votre question sur la question des quartiers populaires, apparemment, on n'est pas tous d'accord sur ce que ça peut qu'est-ce qu'on entend autour de la question des quartiers populaires ? Moi, on ne va pas ouvrir le débat parce que ce n'est pas le propos.
Exact.
Mais juste qu'autour de cette notion, il y a des dizaines d'années de lutte. Il y a toute une histoire du peuplement des quartiers populaires. Ça fait référence à une histoire très, très importante pour les gens qui militent sur ces quartiers. Et même si, effectivement, il y a des gens qui débattent sur faut-il ou pas appeler ces quartiers quartiers populaires, moi, je préfère encore dire quartiers populaires parce que je me reconnais dans l'histoire de cette création. Je reconnais aussi l'histoire de mon père, je reconnais aussi l'histoire de toutes ces personnes qui arrivent aujourd'hui en France. Sur la question, faut-il avoir peur, c'est ça, vous m'avez dit, des quartiers populaires ?
Oui.
Bah écoutez, venez nous rendre visite et vous verrez pourquoi vous n'aurez plus jamais peur en fait de venir dans les quartiers populaires. Il y a comme ça, en fait, chez les médias, chez certains politiques, une façon de renvoyer une image plutôt négative de ces quartiers, mais on ne parle jamais suffisamment des choses magnifiques qui s'y passent. Concernant le quartier de la Villeneuve sur lequel je travaille, ne serait-ce que la régie de quartier en elle-même, eh ben, c'est un projet vraiment magnifique qui donne de l'espoir et qui a été aussi un outil pour énormément de personnes qui sont passées à la régie de quartier, qui a été un tremplin pour elles pour pouvoir rebondir dans leur vie et pour trouver des stages, pour avoir un premier boulot. Voilà, quand on est éloigné de l'emploi, eh bien, c'est quand même un endroit où... qui est très important, en tout cas, sur le quartier de la Villeneuve. Et j'ai plein de en tête, comme ça, d'associations qui font des choses incroyables au quotidien. Et je pense qu'il faut venir voir ce qui s'y passe, je pense, avant de véhiculer des préjugés. Et sûrement, les personnes qui parlent de ces quartiers de cette manière-là ne sont jamais venues.
C'est sûr.
Après, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas regarder les difficultés qu'on a aujourd'hui sur ces quartiers. Il y en a des difficultés, effectivement. Il y a du chômage, mais il n'y a pas que ça. Il y a de la précarité, il n'y a pas que ça. Il y a beaucoup de choses qui s'y passent. Il y a des difficultés qu'il faut aussi qu'on arrive à régler. Et une des difficultés aussi que les habitants des quartiers vivent au quotidien, c'est la question des discriminations. Et c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, on se réunit avec de nombreux acteurs autour de la table pour que cette question, elle soit portée politiquement, qu'elle soit portée par les institutions et qu'il y ait une prise de conscience sur ce qu'on a envie de vivre, en fait, comme société et quelle société on a envie de partager aujourd'hui.
Christelle ?
Bah, moi, je vais rebondir sur la question de la sanction.
D'accord.
La question de la sanction. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans une société aussi de déni, en fait, des discriminations. Clairement, on a une négation, en fait, de ce que la plupart, enfin, ce qu'une partie de la population vive. Parce que moi, je suis femme, je suis blanche, j'ai jamais été contrôlée de ma vie, je ne le saurai absolument jamais. Donc en fait, il y a un déni d'une bonne partie de la population, des classes politiques aussi qui, sous prétexte en fait, sous prétexte ou pas, en tout cas, qui ont une vision particulière de la société, qui veulent pas rentrer dans ces problématiques-là, qui ont aussi en fait des liens avec peut-être les professionnels de la sécurité qui voudraient, voilà. Mais du coup, il y a un véritable déni. Il y a quand même des scientifiques, que ça soit le CNRS, des sociologues, des politologues qui ont prouvé en fait l'existence de ces contrôles d'identité. Il y a le Défenseur des droits, la CNCDH, des associations qui militent depuis des années sur ces contrôles, sur ces problèmes de discrimination systémique, et que finalement rien ne bouge. On parle du récépissé, on parle de relations police-population, d'amélioration. En fait, on va de mal en pis finalement parce que on a enlevé la police de proximité. C'est des choix clairement politiques. Et du coup, on a à un moment, c'est la sanction juridique, en fait, est une arme fondamentale. Et cette action de groupe, cette loi qui a été notamment créée par Taubira, c'est quand même quelque chose de très symbolique, quand même, nous permet, en fait, collectivement, de sanctionner l'État et d'imposer des réformes systémiques. Et donc, Omer en parlait, donc c'est l'imposition du fameux récépissé. Que ça soit des gouvernements de gauche depuis 20 ans, on en parle, mais jamais n'est mis en place. des réformes de politique de sécurité, de liens police-population qu'il faut imposer, de contrôle aussi de nos agents de professionnels de sécurité, de nos policiers, parce que ça reste un service public et qu'on l'oublie bien souvent. Ça, on se pose la question si c'est légitime de la question une police d'État ou une police au service de la population. Je pense que c'est aussi une question que les policiers se posent eux-mêmes, d'où un malaise profond aussi dans la police et l'ensemble des suicides qui s'y rapportent. Mmh. Donc, à un moment, la sanction, et ce n'est pas qu'une sanction individuelle avec des indemnités, c'est vraiment cette action de groupe qui a été qui est proposée par les associations et les ONG sont vraiment on impose en fait à l'État, enfin, on espère que le Conseil d'État sera dans cet objectif-là, parce que ça fait quand même 30 ans qu'on pose cette question, et avec des réformes de politique publique. Donc la sanction, à un moment, elle est, quand on ne veut pas écouter ni les scientifiques, ni la population civile, ni les institutions qui défendent nos droits, comme le défenseur des droits, ou... À un moment, les sanctions s'imposent comme toute entité morale dans un état de droit.
Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut mettre en place vraiment pour sensibiliser en fait les publics par rapport à cette question en fait, cette question de discrimination et au contrôle faciès?
Je peux répondre en partie, hein. En tout cas sur la métropole, depuis quelques années, il y a un réseau partenaire égalité qui a été mis en place et qui est coordonné par la métropole. Et dans ce réseau, on peut y compter à peu près 13 communes et 50 partenaires. Alors ces partenaires sont des missions locales, la régie de quartier, ça peut être des associations, des villes, des services qui viennent vraiment porter la question de la lutte contre les discriminations. Faire évoluer en fait les façons de travailler, se re-questionner en interne autour de la question de la lutte contre les discriminations, comment on peut aussi questionner les pratiques des professionnels et au quotidien, et comment aussi on peut aussi prendre conscience qu'on peut produire des discriminations au sein d'une administration, d'un service, peut-être sans le savoir, pour de multiples raisons. Et c'est d'arriver à re-questionner tout ça et de faire évoluer des pratiques. Et là, il y a un véritable engagement de tous les partenaires qui sont dans ce réseau. Et aujourd'hui, on est quand même nombreux à se réunir régulièrement et à travailler cette question. Et on a un outil avec lequel on travaille. Alors, les partenaires qui sont présents sont des personnes qui reçoivent du public. Et ce public, souvent, vient et parle du vécu des discriminations qu'ils vivent au quotidien, des injustices. Et parfois, c'est très lourd à garder pour soi. On ne sait pas où aller, que faire. Et souvent, les partenaires accueillent cette parole. Et aujourd'hui, il y a une fiche de signalement qui a été mise en place. Et les professionnels vont remplir cette fiche. Cette fiche, elle va être renvoyée à cette cellule de veille active qui a été mise en place. On a une juriste qui regarde l'affaire et qui donne un avis, une analyse juridique autour de ce qui s'est passé, et qui dit oui, c'est une discrimination, et voilà ce qui s'est passé. Alors, une des difficultés qu'on a dans la cellule d'abeille active, c'est-à-dire qu'on accueille ces fiches, on fait des analyses, et jusqu'à présent, on n'avait pas les avocats, ou en tout cas les personnes qui pouvaient accompagner réellement ces personnes qui étaient victimes de discrimination. Et on faisait comme on pouvait en tant que professionnel, mais il manquait quelque chose. Et là, la cellule de veille active, du coup, met en place, c'est pas encore complètement finalisé, mais ça ne saurait tarder, il va y avoir une consultation juridique. D'accord. Et dans cette consultation juridique, on est plusieurs partenaires. Il y a l'IDH, l'Institut des droits de l'homme, il y a la LDH, la Ligue des droits de l'homme, il y a la Régie de quartier, il y a la Métropole, et on aura des avocats, en fait, qui viendront sur cette permanence et qui pourront éclairer en fait les personnes qui seront victimes de ces de discrimination et en parallèle la régie de quartier en fait du coup c'est moi on va mettre en place une permanence, un lieu d'écoute où les personnes, même si elles vont pas aller voir tout de suite un avocat, mais en tout cas on met à disposition un lieu d'écoute pour que les personnes elles puissent s'exprimer sur leur vécu, qu'elles puissent trouver un endroit où échanger, où discuter, avoir un avis. Et ensuite, on pourra aussi remplir une fiche pour signaler ce vécu. On pourra avoir aussi des analyses. Et en même temps, on pourra relayer auprès des avocats qui seront présents sur la consultation juridique. Alors tout ça, c'est en train de se mettre en place. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur Grenoble, il n'y a pas beaucoup d'avocats spécialisés sur la question de la lutte contre les discriminations. Et une des manières aussi de mettre ça en place, c'est aussi de sensibiliser un certain nombre d'avocats qui sont partants, qui se sont engagés dans la démarche, à la question de la lutte contre les discriminations. C'est hyper riche comme travail. Très prochainement, d'accord, on va pouvoir proposer cette consultation juridique, okay, et cette permanence.
D'accord. On va passer à une petite pause musicale et on revient tout à l'heure. À tout de suite.
La citoyenneté, tu peux toujours m'en parler, mais quand je vois tous ces politiciens, ces ministres d'État haut placés, en haut de l'échelle sociale, qui se prennent pour des puissances mondiales, je me dis non, arrêtez ça, ça m'est fatal, j'ai trop mal quand je vois mes frères qui pourrissent dans les ghettos, à côté des politiques, ceux qui viennent de là-haut. Aujourd'hui, la politique domine, décime les peuples, les patries, les parrains et les amis. Regarde l'ami, ce qui se passe autour de toi, c'est socio-politique avec les lois Sarkozy. Désormais, retirer ces ministres économiques. Franchement, quand je vois ça, ça me donne pas envie de rire, crois-moi. C'est comme une plaie qui s'ouvre et qui grandit. Et quand je vois la zermie autour de moi chaque jour, ils veulent nous diviser, nous faire culpabiliser. Mais si on sortait toutes nos idées, ils seraient tous amerdés, chercher à nous faire taire par n'importe quel moyen. Mais qu'importe le moyen pour voter pour ces chiens, ça soit bien ou mal, ils nous sapent le moral à cause de tout ça. On perd le mental et c'est fatal, j'ai trop mal. C'est devenu trop dur pour mon cerveau. Je ne comprends plus les décisions qui viennent de là-haut, de là-haut. Être citoyen, c'est pas trop donné, mais il faut passer par là pour pouvoir y arriver. Être citoyen, c'est d'avoir des droits et des devoirs, respecter la loi et nos alentours. Être citoyen, c'est pas trop donné, mais il faut passer par là pour pouvoir y arriver. Être citoyen, c'est d'avoir des droits et des devoirs, respecter la loi et nos alentours.
Le monde tourne à l'envers et leurs lois on les subit, dévisagés comme la burqa aujourd'hui. On slalome à la recherche du bonheur qui a fui, paraît qu'il faut semer pour en récolter les fruits. Celui qui règne par les arts périra par les armes. Tu négliges ton peuple, t'étonne pas quand ça crame. À cran, obligé de ruser pour s'en sortir. Famille nombreuse parquée aux eaux dans ses tours. Il te pousse à la faute et au fur et à mesure que le temps passe, s'éclôt de nouveaux rocs en cours. Costume cravate derrière ton bureau, escroc. Mais c'est pas toi qui vis dans le ghetto. La misère est devenue notre quotidien. Demande à Sistamiki, elle sait bien, citoyen. Reste éveillé, tu te fais merguez. Défends tes droits, fais marcher ta matière grise.
Être citoyen, c'est pas trop donné, mais il faut passer par là pour pouvoir y arriver. Être citoyen, c'est d'avoir des droits et des devoirs, respecter la loi et nos alentours. Être citoyen, c'est pas trop donné, mais il faut passer par là pour pouvoir y arriver. Être citoyen, c'est d'avoir des droits et des devoirs, respecter la loi et nos alentours.
Leur loi nous incarcérer, enfermés dans nos bulles, on se laisse aller. Ils nous ont demandé de l'aide, ils s'en servent comme arme contre nous. Mais malheureusement contre, on n'y peut rien. Ils se sont servis de nous comme des pions. Ils
se donnent le pouvoir, condamnent le roi lion. Mais ils oublient que sans nous, ils sont rien. Le peuple souffre en silence, maltraité, obligé de fuir.
Ça manque de nerfs dans nos cuisines, cousine, c'est du Orasi. Citoyenne, rêve de vie clean, easy. Ils s'acharponnent sans relâche pour un retour aux sources. Zazie dans le cœur, lion dans la brousse. Loin du bruit et l'odeur, loin des cris et des pleurs. Loin du mépris envers nous, des décideurs. Un peuple meurt en silence pendant qu'il savoure. Des promesses sur promesses, déguste du caviar.
Être citoyen, c'est pas trop donné, mais il faut passer par là pour pouvoir y arriver. Être citoyen, c'est d'avoir des droits et des devoirs. Respecter la loi et nos alentours. Être citoyen, c'est pas trop donné, mais il faut passer par là pour pouvoir y arriver. Être citoyen, c'est d'avoir des droits et des devoirs. Respecter la loi et nos alentours. Être citoyen, c'est pas trop donné, mais il faut passer par là pour pouvoir y arriver. Être citoyen, c'est d'avoir des droits et des devoirs. Respecter la loi et nos alentours. Être citoyen, c'est pas trop donné, mais il faut passer par là pour pouvoir y arriver. Être citoyen, c'est d'avoir des droits et des devoirs. Respecter la loi et nos alentours.
Pour reprendre beaucoup avec ce que vous pouvez dire Jouda par rapport à la permanence juridique et autres, je crois qu'il faut vraiment prendre en compte, car là Jouda nous mettait en lumière donc, l'implication de l'institution, pour le coup, au travers des avocats aussi, l'implication de la justice, hein, des personnes qui s'engagent pour faire en sorte de faire remonter, que ce soit traité. Une fois que c'est traité, il faut faire entendre justement que des situations... qui ont été vécues se sont transformées en condamnation. Je pense que c'est important de le faire entendre. Après, quoi qu'il en soit, ça restera aussi un engagement collectif, et pas seulement de l'institution et du corps juridique. Hein. À un moment donné, la population aussi doit s'en saisir. Alors, je suis pas en train de blâmer la population, de dire mais qu'est-ce que vous faites. À un moment donné, signalez votre discrimination. Il faut déjà pouvoir les identifier, il faut pouvoir les qualifier. Au-delà de ça, il faut pouvoir dépasser le sentiment, le ressenti et vraiment. La souffrance, du coup, que ça engendre, hein, parce que lorsqu'on est discriminé, on se sent quand même, on se sent diminué, on se sent pas à sa place, on se sent rejeté, on se sent amoindri, hein, quand même, hein, on se sent pas à la même hauteur, finalement, que le reste des gens. Et selon les âges, ça peut être très, très destructeur. Quand on prend un gamin de 12 ans à qui on dit, mais en fait, il se sent pas à sa place, il se sent rejeté, il se sent exclu d'une société dans laquelle il doit se projeter, société à laquelle justement on vient lui appliquer les notions de liberté, d'égalité, de fraternité. Donc là, ça devient quand même difficile de trouver sa place et de se dire bah tiens, ça match. Tiens, j'ai l'impression que finalement, en fait, entre le discours et ce qu'il vit au quotidien, faudrait qu'il y ait un petit peu plus de finalement de cohérence. Donc la souffrance que ça engendre, et qu'une fois qu'on aura aussi mieux qualifié les discriminations et qu'on pourra se sentir vraiment en tant que tel, légitimement en tant que victime. Que l'institution et que le pouvoir juridique viennent se coller à tout ça, il me semble que c'est plus, c'est déterminant. Mais tout ça pour dire que c'est collectivement que tout ça doit s'engager, et aussi au quotidien, parce qu'il y a certes les victimes de discrimination, puis il y a les témoins. Et moi, là-dessus, au même titre que la lutte contre le harcèlement ou les violences conjugales ou autres, je crois que le témoin a aussi un rôle à jouer dans son engagement et dans son acte citoyen. Alors peut-être pas aller forcément dénoncer à la place de quelqu'un d'autre, mais au moins aller vers la personne en disant, tu sais... là, je me questionne quand même. Le traitement qui t'a été... le traitement qui t'a été affligé n'est pas normal. Tu as des droits et il faut qu'on puisse faire entendre. Alors après, j'entends bien. C'est pas forcément... il peut y avoir des personnes qui viennent signaler des discriminations sans forcément aller jusqu'au procès, jusqu'au juridique. L'idée, c'est d'aller sur ces lieux, finalement, sur ces lieux d'accueil pour pouvoir identifier, mesurer... Et ensuite, collectivement, aucune action sera engagée sans l'approbation des personnes. Ça, je crois qu'il faut l'entendre aussi. Hein, c'est que les personnes restent quand même maîtres de leur engagement, de leur destin, de leur choix, tout simplement.
Pierre Gaillard,
Je voulais juste revenir sur le terme quartier populaire. Mmh. Quartier populaire, il est populaire à l'intérieur du quartier. Ça, c'est sûr. Il y a des actions qui sont faites. Jamais personne n'en parle. Jamais personne ne dit... l'action que font les régies de quartier, par exemple. C'est évident, ça. Et prenez... moi, j'habite à l'extérieur des quartiers populaires. Eh bien, la majorité des gens qui m'entourent pensent que c'est des endroits à risque. C'est une population où on risque beaucoup, je le disais tout à l'heure, mais je reprends ce terme-là Parce que effectivement, les médias notamment, quand ils parlent de Grenoble, ils ne parlent de Grenoble que quand il se passe quelque chose à Mistral, à la Villeneuve, ou à l'Allemagne, ils ne parlent que d'histoires d'échanges de drogue ou de choses comme ceci. On ne dit pas ce qui se passe à l'intérieur des quartiers. On ne dit pas la solidarité qu'il y a dans les quartiers. Et elle existe. Et donc, ça, on doit positiver là-dessus, excusez-moi.
Exactement.
C'est ça, la chose, c'est ça. C'est les sourires des gens, c'est la capacité de communiquer qui est intéressante. C'est pas le fait de se regarder en chien de faïence.
D'accord. Christelle, vous avez quelque chose à rajouter ?
Oui, en fait, je voulais juste revenir sur... parce que c'est une des questions qui nous reviennent souvent, en fait, c'est-à-dire de justifier... Bon, là, on va revenir sur la question des contrôles aux faciès et d'identité, donc des actes discriminants. En fait, sur une justification de sécurité, c'est-à-dire, c'est dans les quartiers populaires, il y a de la drogue, etc. Donc, en fait, c'est surtout, je pense, une criminalisation d'une partie de la population, parce que peu importe, en fait, où l'on est, qu'on soit, en fait, moi, je ne sais pas, je suis de milieu universitaire, j'ai des amis, des collègues qui sont doctorants, etc., même on a des diplomates, des personnes qui sont, du coup, de couleur, racisées ou pas, on n'aime pas le terme, bref, arabes, noirs, et qui vont se faire contrôler de la même manière que les quartiers populaires. Donc, en fait, ces histoires de drogue, de terrorisme. En fait, on va toujours trouver une raison pour contrôler une partie de la population, que ça soit, comme je disais, des actes de terrorisme, des actes de même des migrations, du coup, illégales. Voilà, donc il y a des phénomènes, en fait, qui sont récurrents et qui créent, du coup, de la discrimination pleine et entière et illégale, du coup. Et peu importe cette question de quartier populaire ou pas, parce que c'est une question qui dépasse le cadre de ces quartiers-là. Enfin, ça, je pense qu'il faut l'entendre.
C'est une question nationale, quoi, en quelque sorte, c'est ça.
C'est une question nationale et c'est pas une question aussi de classe sociale. C'est-à-dire que et c'est pas une question non plus de territoire, parce que quand on va en ville, des personnes à la gare vont se faire contrôler. On n'est pas dans des quartiers populaires, on est dans des lieux communs où tout le monde sont mobiles. Enfin, voilà. Mais il y aura toujours une partie de la population, donc arabe ou noire principalement, qui seront discriminés. Donc de là, on dépasse vraiment la problématique des quartiers populaires. Et c'est là où je pense qu'on a une réponse claire, même des sociologues, sur ces questions-là qui sont déjà posées.
D'accord, allez-y.
Et juste pour compléter, la question de la lutte contre les discriminations, elle dépasse largement les quartiers populaires. Souvent, on mène des actions dans les quartiers populaires de lutte contre les discriminations. Enfin, jusqu'à preuve du contraire, c'est pas dans les quartiers populaires qu'on va trouver le terreau des discriminations qui sont vécues par les habitants. En fait, ces discriminations, elles sont produites en dehors, elles sont produites dans des institutions, elles sont produites dans les banques, le logement, le travail. C'est pas dans les quartiers, donc il faut vraiment, l'école. Enfin, il y a des tas d'endroits où c'est produit. Et la lutte contre les discriminations, elle se fait aussi dans ces endroits-là, qui ne sont pas dans les quartiers et qui dépassent largement la notion du quartier. Et les gens circulent et les gens ont besoin du reste du monde aussi pour vivre, pour être en interaction avec tout le monde, pour avoir un logement, pour avoir un travail et vivre dignement. Et comme le disait Christelle, aujourd'hui, quand on est noir ou arabe, on peut être aussi ingénieur, avocat et ne pas vivre dans un quartier et subir aussi des contrôles. On a parlé des quartiers populaires, mais en fait, la question de la lutte et le portage politique aussi de cette lutte, elle dépasse ces quartiers, même si aujourd'hui, dans les dispositifs, c'est dans les quartiers comme on dit, QPV, quartier prioritaire, que sont concentrés,
C'est quoi QPV, en fait ?
C'est les... quartier politique de la ville.
D'accord.
À force d'employer les sigles, on n'arrive pas à les définir. Mais en fait, c'est dans ces quartiers qu'en fait, on concentre les dispositifs, mais en réalité, ça devrait être du droit commun, ça devrait dépasser, en fait, les politiques plus ciblées au niveau des quartiers prioritaires.
D'accord. Ben là, on va essayer de joindre Alice Achache, qui est avocate aussi, permanence d'accès au droit. Envers, donc on va vous raccrocher parce qu'on va prendre quelqu'un d'autre.
Ok. Bonne journée à vous tous.
Merci beaucoup. Merci d'avoir intervenu. Tout de suite, on va joindre Madame Alice Achache. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints par téléphone. Vous pouvez vous présenter un petit peu, s'il vous plaît.
Oui, alors moi je suis avocate au barreau des Hauts-de-Seine il y a 3 ans avec l'association PASAPA et MCDS. On a créé une permanence à Belleville, à Paris. Et je suis responsable de tout ce qui est juridique. Et en parlant avec les jeunes du quartier, peu à peu, la question des contrôles, des relations avec des jeunes avec la police a été hyper importante. Donc, on a fait tout un travail d'information et de renseignement de ces jeunes sur comment agir avec la police, leurs droits. Et le fait que ça soit pas normal de se faire contrôler quelques fois par jour dans le même quartier par les mêmes flics. Et en parallèle, il y a plein de questions diverses juridiques qui nous ont été apportées. Et donc on traite aussi des dossiers sur des petits problèmes, des problèmes particuliers avec les.
Voilà, d'après en fait une enquête qui figure sur le site du Défenseur des droits du service public, 12% des personnes rencontrent des difficultés dans leur démarche et finissent par abandonner. Quel constat faites-vous sur ces difficultés d'accès en matière de droit par les publics discriminés en fait?
Alors ça j'en ai aucun doute, et oui, c'est ce qu'on constate. Après, sur les démarches juridiques, c'est plus administratif, on laisse tomber. Sur les démarches juridiques, c'est surtout l'accès qui n'est pas du tout apporté sur les droits. On voit que l'avocat intervient dans la vie des gens que quand au dernier moment de leurs problèmes, donc c'est la catastrophe, alors que l'accès au droit devrait être quotidien. Et c'est ce que, en tout cas, j'ai constaté en travaillant sur Belleville.
Quand les gens ils viennent voir les avocats, ça trouve que déjà la situation est déjà partie très loin en fait.
C'est encore à travers le délit de faciès, c'est-à-dire que quelqu'un qui est un peu différent a souvent pas beaucoup d'argent. Un avocat, ça coûte cher, donc il est il doit accepter de faire un dossier pour l'aide juridictionnelle. Ce n'est pas tous les avocats qui acceptent ça. Je pense que maître, vous acceptez, vous, effectivement, cette aide juridictionnelle. Mais il y a encore des écueils.
Si je peux me permettre, oui. L'aide juridictionnelle n'intervient pas sur les conseils.
C'est ça.
Si on veut avoir des conseils d'un avocat, on n'aura pas d'aide juridictionnelle. Donc, on n'a pas de relation au quotidien avec un avocat qui est payé par l'État, en fait.
Alors, les associations sont là pour faire des permanences, notamment, avec des avocats qui font ça bénévolement. Il y a pas mal d'avocats, y compris à Paris, qui utilisent un tiers de leur temps pour aider les associations et qui vivent d'autres choses aussi en même temps, d'autres affaires.
Exactement, mais ce que je constate aussi, c'est que c'est des lieux qui ne sont pas intégrés dans les quartiers populaires. C'est des cars, des bus, des associations, je trouve que c'est rare qu'il y ait un local avec des avocats qui pointent, qui sont en bas des gens qui en ont besoin. C'est les gens qui doivent faire la démarche pour aller voir, et ils doivent se rendre compte que là ils en ont besoin, et sauf que quand ils se rendent compte qu'ils en ont besoin, c'est déjà soit trop tard, soit...
Juste à savoir que moi je connais bien le 19e arrondissement et j'ai quelqu'un qui est à la Ligue des droits de l'homme qui effectivement prend contact avec les habitants, notamment du quartier du quai ou du quartier Crimée, qui sont les plus sensibles à ça. Et il y a des permanences qui se retrouvent même rue Petit, je peux vous dire, et qui font effectivement des aides juridictionnelles et des choses qui font des dossiers d'aide juridictionnelle de façon à permettre à ces personnes de se défendre.
Oui, mais c'est rare. C'est pas la norme.
D'accord.
Des actions comme la nôtre, comme la permanence, qui intriguent les gens, c'est pas courant. Et aussi, c'est que l'avocat est loin de la population, ou le juriste est loin de la population, et finalement, c'est des problèmes où il y a une confiance qui doit être établie, et la confiance, c'est par l'intégration dans les quartiers du juriste ou de l'avocat.
Oui, je partage complètement le constat d'Alice, hein, et la démarche en fait de la consultation juridique et de la permanence aussi d'écoute sur la lutte contre les discriminations, c'est que le choix qui a été fait, c'est vraiment d'installer cette consultation au plus près des habitants qui sont les premiers concernés, les premières concernées par les discriminations qui sont vécues. Et alors, on va commencer, quand on commencera cette permanence, on verra, et cette consultation juridique, on verra si les gens répondent, mais en même temps, il va y avoir des gens qui arrivent certainement de plein d'endroits de la métropole, mais en tout cas, sur le quartier de la Villeneuve, par exemple, où il y a 12 000 habitants, voilà, ce choix d'installer ces permanences et ces consultations vraiment au plus près des habitants, ça a été réfléchi et aussi, on tire un bilan de ce qui est fait ailleurs aussi. Et on espère plus tard que ces permanences, elles pourront aller sur d'autres quartiers populaires et au plus près des gens pour faciliter aussi la démarche des personnes concernées par ces discriminations.
Pour rebondir sur ce que dit Zouda, du coup, je crois que c'est très important d'identifier la ressource, le fait qu'elle soit en bas de chez soi. Alors on pourrait dire, mais enfin, ils peuvent se déplacer, ils peuvent prendre le tram, etc. Alors oui, effectivement, ils peuvent se déplacer, prendre le tram. Mais au-delà de ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, vivre une situation discriminante, c'est très particulier, c'est aussi humiliant, hein, c'est quand même très particulier à dépasser. Si on n'a pas la possibilité, on ne tend pas la main quelque part, c'est difficile quand même d'aller se présenter. Et la ressource, je crois que c'est hyper important qu'elle soit identifiable. Nous, pour le coup, Judas, peut-être tu veux rajouter quelque chose à ce sujet-là.
Oui, juste sur ce point aussi, c'est la confiance en fait qu'on a entre partenaires, la confiance qu'on a aussi avec les habitants parce qu'on a travaillé avec eux et que la structure, elle est connue par les habitants et on a aussi cette confiance-là. Et je trouve que c'est hyper important justement de travailler et de mailler avec les gens qui sont sur les quartiers.
Ah justement, pour le coup, donc, je rebondis notamment sur l'identification des ressources et sur le maillage. Donc nous, au sein de la Petite Poussée, on a intégré un projet qui s'appelle le projet FEJ, Fonds d'expérimentation jeunesse, qui est insufflé, donc du coup qui est soutenu par l'INJEP, l'Institut National Jeunesse Éducation Populaire Sport, qui pour le coup veut identifier ou souhaite identifier, en s'appuyant sur les acteurs territoires locaux, les discriminations vécues, et notamment par les jeunes issus des quartiers populaires. Cette action-là, on se rend bien compte qu'il y a une difficulté à aller parler de ces questions-là, qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de ressentis à surmonter. Il y a aussi beaucoup de méfiance et de défiance, parce que pour le coup, aller voir un citoyen et lui dire bah tiens, finalement l'institution t'invite à aller combattre une discrimination que tu aurais vécue par l'institution, c'est quand même, enfin parfois ça peut être aussi assez ambivalent, hein, de se dire mais alors attends, il va quand même falloir qu'on remette les choses dans l'ordre, parce que là j'ai un petit peu de mal à me situer. C'est pas évident. Donc voilà, au travers de cette action du FEJ, donc beaucoup de partenaires autour de la table, donc notamment la régie de quartier, Associa Jeunes, les associations, mais aussi la ville de Nantes, Villeurbanne, Aubervilliers, donc ils sont impliqués dans cette démarche. C'est une démarche qui était a priori basée sur trois ans, mais pour le coup qui s'est allongée parce que l'année Covid est une année blanche, on n'a pas pu faire grand chose. L'idée, c'est d'aller recueillir la parole, donc des habitants, là pour le coup de la jeunesse. Cette parole, c'est bien de la recueillir, ensuite il faut la faire entendre. Et aujourd'hui, on s'appuie aussi énormément, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, prendre de la place dans les médias, pour moi, c'est prendre une place. Et donc, on a souhaité donc développer conjointement avec donc tous ces partenaires une plateforme qui s'appelle Enquête d'égalité, qui vise justement à faire entendre, qui a plusieurs objectifs, mais qui vise déjà à faire entendre les discriminations vécues. Donc, pour le coup, leur donner toute leur légitimité et montrer que c'est pas juste quelque chose de fantasmé, c'est quelque chose qui existe au quotidien. Le fait d'utiliser le numérique, ça permet quand même de démocratiser largement l'outil et d'y avoir accès n'importe quand, n'importe où et aussi à n'importe quelle heure, parce qu'on n'est pas toujours disponible finalement à se dire bah tiens, voilà, j'ai envie d'aller un petit peu plus loin dans le truc que j'ai vécu. Et donc, du coup, le fait d'avoir cette plateforme numérique, ça donne quelque part une espèce d'instance à H24, hein, du coup, en permanence. Et sur cette plateforme, on peut trouver donc, certes, des témoignages, mais pas que. Il y a aussi la ressource juridique, donc la consultation juridique dont on parle, qui est en train de se mettre en place. On va pouvoir avoir des éléments sur cette consultation juridique, notamment les créneaux, les fréquences, etc. Il y a donc des outils d'animation qui permettraient à quiconque, même à des parents, hein, finalement, de pouvoir échanger avec leurs enfants sur ces discriminations vécues, mais c'est aussi des outils à destination des professionnels, mais c'est aussi faire entendre aux professionnels et aux institutions la réalité de terrain, c'est-à-dire le quotidien des gens, le quotidien des citoyens et la souffrance des citoyens. Donc on a l'onglet outils d'animation, comme je vous dis, voilà, pour faire en sorte de parler de ces thématiques, l'onglet co-work aussi pour faire, aussi pour montrer qu'il y a beaucoup d'acteurs qui travaillent sur ces sujets-là, et l'onglet co-work vise justement à montrer les différents projets qui sont en cours d'exécution, et des projets sur lesquels quiconque doit pouvoir s'inscrire finalement et dire bah tiens moi aussi j'ai envie de contribuer. Donc tous les comptes rendus des différentes réunions sont accessibles, les prochains rendez-vous, les agendas. L'idée c'est que quiconque veuille s'impliquer puisse le faire aussi au travers de cette plateforme, et un onglet agenda aussi qui permet un onglet agenda qui nous permet de voir les prochains rendez-vous temps et événements, parce qu'on mise aussi beaucoup sur les événements, l'air de rien. On se dit que les événements sont très importants parce que c'est visuel, c'est visible, ça se voit, et c'est un autre climat. C'est un climat beaucoup moins anxiogène que finalement que de se rendre quelque part en disant bah, je vais parler de la discrimination. Là, on a des outils conviviaux finalement qui nous permettent de parler de ces thématiques sans avoir trop de freins.
Juste pour rebondir aussi sur ce projet FEJ qui vise à mesurer l'impact des discriminations sur le parcours des jeunes. On est partenaire donc avec Liamine aussi, on travaille ensemble. Et moi, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, c'est hyper intéressant en ce moment, c'est qu'il y a quand même une dynamique qui est forte en fait sur la métropole autour de ces questions. Il y a plein de choses qui se font. Association mène des enquêtes. Il y a des enquêtes qui sont menées aussi dans le cadre de l'université. La régie de quartier, en fait, on a monté un questionnaire avec des habitants où, en fait, on va questionner les jeunes sur leur vécu et les faire parler sur les discriminations. Et notamment, on a un volet dans le questionnaire où on parle du rapport à la police. Et voilà, tous ces outils, en fait, en ce moment, ils sont à disposition des gens, vu qu'on est à la radio autant que on en fasse un peu la publicité. En ce qui concerne le questionnaire, par exemple, qu'on a monté avec un groupe d'habitants, les personnes, elles peuvent contacter la régie de quartier s'il y a des jeunes entre 14 et 26 ans qui ont envie de participer à ce questionnaire et partager un vécu. C'est un questionnaire complètement anonyme, hein. Et ils peuvent contacter la régie de quartier et puis demander Jouda, par exemple. Voilà, c'est une façon aussi d'agir là où on est et de se dire ben, je contribue à ça aussi. Et ensuite, il y a toute l'action aussi avec la petite poussée où, Liamine, de toute façon, tu en parles beaucoup mieux que moi, hein. Oui. Toute la plateforme qui va être mise en place et tout. Voilà, je ne vais pas monopoliser la parole.
Donc, vous pensez vraiment que ces outils sont adaptés pour toucher et sensibiliser les jeunes?
Eh bien, oui, parce que, alors par exemple, Associa-Jeune touche beaucoup de jeunes, en fait, autour d'eux, à travers la pratique artistique. Ils ont mené des interviews avec les jeunes pour les faire parler, s'exprimer sur des expériences de discrimination. Hein, et la parole, elle est lourde quand on entend les jeunes parler de ce qu'ils vivent. On est triste. Parce que moi, du haut de mes 50 ans, j'ai l'impression qu'ils racontent les mêmes histoires qu'on se racontait il y a 30 ans. Il serait temps quand même qu'on avance et qu'on passe et que les jeunes aient la même chance que tout jeune. Je veux dire qu'il ait le droit de choisir là où il a envie d'aller, là où il a envie de vivre, là où il a envie d'aller travailler et qu'il ne soit pas constamment freiné par des questions de discrimination. Enfin voilà, il y a quand même des enjeux aujourd'hui liés au climat qui arrivent et va falloir qu'on règle réellement ces problèmes.
Hein. Je crois que ce dont parle Jouda, ouais, vraiment, pour moi, là, ça me saute à la tête, c'est qu'on entend vraiment la liberté de se projeter. Quoi. Pour un jeune aujourd'hui, est-ce qu'il a vraiment la liberté de se projeter? Je ne parle même pas du Covid. Hein. Si on vient y ajouter le Covid, alors là, c'est knock-out, hein, là, c'est chaos, c'est merci, au revoir. Mais voilà, ne serait-ce qu'avoir la possibilité de se projeter de la même manière que quiconque, finalement, et que ce soit pas qu'on n'ait pas justement un frein à la projection parce qu'on se dirait bah, parce qu'on a été assigné à dire bah non, toi, ta place est plutôt là, plus que là. Juste pour rebondir, parce qu'on rebondit beaucoup dans cette émission, du coup, sur ce que disait Jouda et ce qu'elle mène à l'enquête, il y a aussi le volet parents. Je crois qu'il est important, c'est d'entendre ce que les parents ont à dire. Parce que quand on entend Jouda dire que voilà, elle entend des jeunes et qu'elle a l'impression qu'il y a une reproduction, je ne vous gâche pas que j'ai eu le même effet. Hein. Où moi, je me suis carrément dit, mais au fait, mes gamins, c'est quoi? C'est immigrés de 4e, 5e génération, et puis ça va continuer comme ça, puis mes tout petits enfants, ce sera des immigrés de 72e génération. Enfin, il y a peut-être un moment donné où il va falloir repositionner les choses. Voilà, les choses changent. Enfin, en tout cas, on essaie de faire en sorte qu'elles changent. Mais il y a la notion des parents, et je crois que la notion des parents, elle est hyper importante, parce que certes, c'est une enquête, le FEJ, qui mène en direction des jeunes, mais on ne dissocie pas les jeunes de leur famille. Et je crois qu'il s'est déjà pas. Les parents ont eux-mêmes un vécu. Qui d'une manière ou d'une autre se transmet hein, au gamin, hein, que ce soit une méfiance, ne serait-ce qu'un parent qui dit fais attention, quand tu vois la police, du coup, on sent que déjà qu'il y a une inquiétude, on sent qu'il y a une peur, on sent qu'il y a une appréhension, et le gamin le sent directement, hein, il sent l'appréhension, et puis, donc du coup, mécaniquement, l'air de rien, on transmet des choses, parfois même indirectement, même sans le vouloir, et c'est nocif, c'est nuisible. C'est nuisible pour la jeunesse, et qu'on dit à la jeunesse, bah, citoyen de demain, moi je dis même citoyen d'aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi on parle toujours de demain, hein. C'est citoyen aujourd'hui, peu importe l'âge, c'est des citoyens qui sont la société, et qui deviendront demain les décideurs, peut-être, de certains, parce qu'on parle beaucoup des discriminés, moins des discriminants, des personnes qui discriminent. C'est ce sujet-là, finalement, vers quoi c'est le sujet qu'on travaille aussi. Et te dire faire entendre les discriminations, c'est pas pour dire bah, regardez, les personnes sont discriminées, parce qu'à un moment donné, les choses évoluent, et que du coup, qu'il y ait quand même aussi des discours, des lois à déterminer. Hein, on espère qu'il y ait des choses qui avancent, mais aussi en direction des personnes qui discriminent.
D'accord. Alice,
oui.
En tant qu'avocate, quelles sont les solutions face à ces problèmes, en fait?
La solution qu'on a trouvée, c'est. De s'insérer dans le quartier, de travailler avec, et surtout d'avoir quelqu'un spécialisé dans le domaine juridique, un avocat ou un juriste, travailler avec des gens qui sont déjà intégrés dans le quartier, avec des leaders du quartier, avec des grands du quartier, et développer une relation de confiance avec les gens qui en ont besoin, quoi. Relier le droit avec ceux qui en ont besoin. C'est un peu ce qu'on fait à Belleville. À les suivre, les relancer, avoir tout un tas de bénévoles qui travaillent à plusieurs pour pouvoir encadrer un peu les problèmes de chacun. Enfin, encadrer, les soutenir dans leur... soit leur dossier, soit leur procédure, soit les informer. Et si on voit qu'ils sont pris par le temps, par les problèmes, les relancer. Et sur ça, il faut être plusieurs. Hein. Un avocat seul ne peut pas faire ça parce qu'il a un, son travail et deux... c'est un problème de temps. Mais c'est très important de travailler en binôme avec des gens qui sont déjà insérés dans le quartier.
D'accord. Monsieur Gaillard, vous avez quelque chose à rajouter par rapport à ça?
Je voudrais dire solutions, que oui. Moi, ce genre d'échange, c'est tout à fait ce qui correspond à la citoyenneté. Parce que nous apprenons chacun de l'autre. Et ça, c'est important. Nous nous cultivons en écoutant l'autre. C'est-à-dire qu'on a des situations personnelles qui ne sont pas les mêmes. Et être à l'écoute de la personne qui est en face de vous, c'est ça le plus important dans la vie. C'est comme ça que nous avancerons, c'est comme ça que nous arriverons au terme d'égalité, de fraternité, parce que nous sommes tous pareils. C'est tout ce que je voulais dire. Je pense qu'il est nécessaire, y compris dans des idées qui sont différentes, de se rencontrer et de discuter d'une façon calme.
Ouais. Christelle,
juste précision. Oui. De suite la parole à Christelle, c'est juste par rapport à sur le FEJ, ce qu'il faut entendre aussi, c'est que ça a été un appel à projet national. C'est la ville de donc c'est la métropole de Grenoble qui a été sélectionnée sur cet appel à projet national aussi parce que des actions ont été menées sur Grenoble. C'est-à-dire que c'est, on a eu des ateliers, donc on avait les ateliers du changement hein, pendant un petit moment, donc il y a 4-5 ans, sur lesquels on pouvait retrouver les mêmes partenaires. C'est des travaux déjà menés qui ont permis à la métropole grenobloise d'être lauréat de l'appel à projet. Et si je pars de ça, c'est aussi pour saluer l'engagement de Madame Sophie Bermeillère, qui est franchement impliquée depuis un certain nombre d'années et qui s'est battue aussi hein, pour pouvoir gagner cet appel à projet, ce qui nous mène aujourd'hui à pouvoir mener le projet FEJ, et ce qui nous mène à échanger à la radio aussi.
Merci. Et Christelle, avez-vous quelque chose à rajouter ?
Oui, ben, pour rebondir sur ce que dit Liamine, c'est-à-dire que les projets FEJ sont menés au niveau national, mais du coup, on voit bien qu'il y a des permanences juridiques qui se créent un peu partout au niveau national et que on voit à Paris que ça a fonctionné quand même avec des décisions de justice importantes. La consultation juridique, la permanence d'accès au droit en fait avec la régie de quartier et l'ensemble des acteurs en fait qui y sont associés, on espère que ça permettra aussi à certaines personnes d'accéder au droit, pas forcément du coup aller jusqu'au tribunal, etc. Mais au moins avoir des réponses et se faire entendre et que ça puisse être aussi entendu par les institutions, parce que l'intérêt aussi, il me semble, c'est que avec le réseau partenaire égalité de la métro, c'est que il y a une, on va peut-être revenir dessus, je ne sais pas si on a un peu de temps, mais peut-être revenir dessus parce que Jodin en a parlé, mais c'est
à 14h à 5 minutes.
C'est la veille. Juridique qui permet non seulement en fait de récolter des données, les plaintes et les situations discriminantes, mais aussi de les faire remonter aux institutions et d'agir vraiment politiquement sur ces discriminations et d'intervenir auprès des entreprises, auprès des structures qui discriminent. Parce que, comme le disait Liamine, c'est bien ça le problème. C'est-à-dire que le problème, c'est pas les discriminer, c'est comment on modifie les pratiques et comment on modifie les fonctionnements institutionnels. Et là, dans le cadre du contrôle au faciès, c'est de la police, mais c'est le logement, c'est la santé... C'est la culture, c'est tous les endroits en fait où on peut être discriminé. Et ce travail mené avec la métro et en lien avec les permanences d'accès au droit, comme c'est monté à Belleville ou je crois à Villeurbanne ou maintenant à Grenoble, ça permet aussi de tisser des liens. Et c'est aussi important dans un réseau national et de s'appuyer sur des victoires aussi qui ont été gagnées au niveau national. Et de continuer les luttes contre les discriminations dans un réseau beaucoup plus large, parce que c'est systémique le problème. Il est important qu'on touche à tous les outils nécessaires, que ce sera le droit, les médias, l'accompagnement, la culture, etc.
Oui, tout à fait. Cette dimension en fait collective, elle est hyper importante hein, dans toutes les démarches de lutte. Et je pense que un des risques en fait, ce serait de rester enfermé seul dans son coin et à ressasser son truc. Je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment prendre conscience que le côté collectif, et d'ailleurs tout ce qui se passe avec le contrôle au faciès, justement, si ça fonctionne, c'est parce qu'il y a du collectif derrière, et que si les luttes, elles gagnent aussi grâce au droit, et bien c'est parce qu'il y a des gens qui se rassemblent, il y a des personnes compétentes pour accompagner tout ça, et quand on voit les derniers résultats, on peut avoir de l'espoir, et vraiment, il faut y aller, quoi, il faut...
Y aller.
Techniquement, il y a des outils qui sont mis en place, notamment sur la question spécifique du contrôle au faciès. Il y a un numéro national qui est mis en place, donc c'est le 06 83 60 58 27, qui est un numéro où vous allez tomber sur la permanence juridique à Paris et du coup sur MCDS et au MAS Capitolin. Et vous avez aussi Maru Mes Droits, où vous pouvez vous connecter et apporter vos expériences, vos partages, vous mobiliser sur la question et participer à cette action de groupe qui est vraiment symbolique et vraiment importante pour faire modifier les pratiques, pour condamner l'État. Voilà. D'accord. Et ces pratiques discriminantes.
Alice, vous avez quelque chose à rajouter? Vous avez une petite bonne minute, en fait.
Non, mais juste, oui, je pense qu'il faut se faire identifier, faire connaître des gens qui en ont besoin. Donc, c'est pour ça que, créer du lien et de la confiance, c'est important. Et pour ça, je pense que c'est vraiment important de se réinstaller dans les quartiers comme la région quartier ou autre, ou Paz à Padelville, avant de monter une permanence active. Et sur les discriminations, je pense que c'est important aussi de réinformer, de discuter de ça avec les gens qui le subissent, parce que il y a toute une prise de conscience à faire dans un premier temps, en fait.
Liamine.
Alors, pour conclure, je dirais que la discrimination, c'est pas juste un problème de discriminer, discriminant. Hein, je crois qu'il y a aussi une vraie question à se poser, c'est dans quel pays on a envie de vivre. Hein, parce que du coup, je crois que c'est vraiment une question d'engagement citoyen, d'acte citoyen, finalement, de se dire, mais en fait, je vis dans un pays qui traite les gens différemment, de manière violente. Donc je crois que c'est vraiment un problème de tout le monde, en réalité. Parce que quiconque finalement sera un jour confronté soit à cette violence de par l'exercice de cette violence devant soi, enfin que ce soit dans un cadre professionnel, scolaire ou autre. Donc je crois que c'est vraiment un problème d'équité de manière générale. Et cet engagement, il ne concerne pas que les victimes ou les oppresseurs. Je crois que ça concerne vraiment une dimension globale de dire finalement dans quel pays j'ai envie de vivre aussi, quoi, tout simplement.
Pour rebondir sur ce que dit Liamine, et je pense que ça, c'est un appel, moi j'ai envie de faire aussi un appel aux politiques, c'est-à-dire qu'en fait, je pense que eux aussi, les décideurs politiques, les élus, ceux qui vont se représenter, qu'ils entendent en fait ce discours que l'on a, cette volonté en fait de vivre ensemble, clairement et de manière égalitaire. Peu importe d'où l'on vient et peu importe qui l'on est et ce que l'on veut être, en fait. Et que je pense qu'il faut arrêter de laisser la main à l'extrême droite, hein, clairement, et de prendre position clairement. Et je pense qu'ils ont des responsabilités sociales et politiques qu'il faut maintenant prendre et ne plus se... Enfin, voilà. C'est un peu un message pour les élus, parce que je pense que ceux qui ne le font pas n'ont pas vraiment de place en politique, en belle politique.
Ça, voilà. C'est sûr.
C'était mon dernier mot.
Le message est passé. En tout cas, voilà, notre émission se termine ici. Merci à nos invités qui ont participé en studio, par téléphone. Cette émission était la troisième de cette série de quatre axées sur le thème des discriminations et plus particulièrement sur la discrimination qui découle des contrôles aux faciès policiers. Prochaine émission, demain, même heure, 13h, même fréquence, le 101.2, et c'est sur News FM, évidemment. Bonne journée à toutes et tous.